Bonjour à toutes et à tous. Un salut zusammen. Herzlich willkommen in Nyon, in Welschland. Das ist alles. J'arrête maintenant, je continue en français. Mais vous pouvez suivre dans vos Bibles, je ne sais pas si vous les avez avec vous, soit sur votre téléphone, soit en livre, ça existe encore. Je vais vous lire la suite du récit que Myriam nous a lu ce matin. Elle a lu la fin de l'évangile de Luc. Et moi, je vais vous lire le texte de l'Ascension dans le début du livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres au chapitre 1 et les 13 premiers versets. Actes 1, 1 à 13. Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, donc l'évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi, avec beaucoup de preuves, qu'il se présenta vivant, après avoir souffert. Il leur apparut pendant 40 jours, parlant du règne de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, et pendant qu'il regardait, il fut enlevé, élevé, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il fixait le ciel, pendant qu'il s'en allait, deux hommes en habit blanc se présentèrent à eux et dirent, « Homme de Galilée, mais pourquoi restez-vous là à scruter le ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors, les disciples retournèrent à Jérusalem, depuis le mont dit des Oliviers, qui est près de Jérusalem, dans le rayon des déplacements autorisés le jour du sabbat. Quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre, à l'étage, d'où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Judas, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, étaient assidus à la prière, avec des femmes, Marie, mère de Jésus, et les frères de celui-ci. Amen. L'ascension, c'est l'histoire d'une séparation qui n'en est pas une, ou encore celle d'un miracle permanent. Je m'en vais vous la raconter. À première vue, les disciples de Jésus vivent une séparation complète avec leur maître. Il part devant eux pour rejoindre son Père dans le ciel. Il échappe à leur vision, si bien qu'il reste l'air un peu bête, en train de fixer un ciel où il n'y a plus personne. Du moins, il n'y a plus personne de visible. Ils ont beau écarquiller les yeux, regarder attentivement, rien n'y fait. Il n'est plus là, il est parti au loin, pour de bon. Pas hyper évident à vivre cette situation. Ce Jésus qui les a tirés de leur vie quotidienne en les appelant à sa suite, certains étaient au bord d'un lac en réparant des filets, d'autres étaient au bureau des impôts, d'autres se reposaient à l'ombre d'un figuier, là je peux tous vous regarder. Ce Jésus qui les a conduits à quitter leur famille, parfois au prix de sacrifices et de séparations douloureuses, Ce Jésus qui les a fait voyager aux quatre coins de la Palestine, qui les a fait vivre une aventure hors du commun pendant 3 ans, ce même Jésus, le voilà qu'il s'en va. Il retourne d'où il est venu, chez son Père qui est dans les cieux. Et ce n'est pas la première fois, en plus, que ça leur arrive à ses disciples d'avoir les émotions qui sont mises à rude épreuve. Il y a un peu plus de 40 jours, ce même Jésus a été cloué sur une croix, endurant une mise à mort atroce, devant leurs yeux, ou presque. Lui qui annonçait la venue d'un nouveau royaume se retrouve pris dans un procès injuste qui le condamne à mort. Qui plus est, cette condamnation est prononcée par l'occupant romain sous pression intense des religieux juifs. En termes de libération politique, on a connu bien mieux. C'est pourquoi on voit qu'aujourd'hui, juste avant qu'il parte rejoindre son père, les disciples continuent de se poser cette question de l'avènement d'un royaume terrestre. Cela reste une préoccupation pour eux, préoccupation qui sera vite balayée par Jésus. Mais attention, ce n'est pas fini. L'histoire ne s'est heureusement pas arrêtée là. Suite à l'annonce de quelques femmes, oui, des femmes, la rumeur court que Jésus est ressuscité, que le tombeau où il a été placé est vide. Vide, un tombeau vide. Encore un haut-le-cœur pour les disciples. C'est du jamais vu. Malgré l'incongruité de la situation, plusieurs disciples accourent pour voir si c'est bien vrai tout ce que les femmes ont raconté. Et oui, c'est vrai, le tombeau est vide. Mais il y a encore mieux. Quelques jours plus tard, Jésus revient parmi les siens. Il revient parmi eux. Il se laisse reconnaître, il monte ses mains, ses pieds. Il partage à nouveau un repas avec eux, notamment sur une belle plage, à un endroit où ils aimaient à se retrouver. Il retrouve ses disciples, il passe du temps avec eux. Ouf, se sont-ils sûrement dit. Le voilà qu'il est de retour parmi nous, on l'a échappé belle. Un peu plus, il nous échappait pour de bon. On peut y aller tranquille, en toute sécurité. Comme ce week-end, farniente au soleil. Et aujourd'hui, en ce jour de l'ascension, catastrophe, exactement, encore. Tout s'effondre au cœur d'une élévation. Tout s'effondre au cœur d'une élévation. Il y a un petit côté paradoxal dans cette histoire. Le voilà qu'il s'élève pour ne plus redescendre avant un bon bout de temps. C'est le moins que l'on puisse dire. L'ascenseur émotionnel des disciples continue son incroyable parcours pour s'arrêter sur ce coup du sort qui n'est pas loin de les laisser chaos debout. Et normalement, ce chaos debout aurait dû signifier la fin de ce mouvement. En toute logique, en toute rationalité, on voit mal comment il est possible de continuer un mouvement dans de telles conditions. On l'a vu, les disciples ont toutes les raisons du monde d'être déboussolés par ce qui arrive. Il faut d'ailleurs l'intervention d'un ange, de 2 anges même, pour qu'ils reprennent à poil leurs esprits et se décident de se mettre en route pour assurer leur rôle de témoin. Soyons clairs, le christianisme, nous chrétiens, est un miracle permanent. Nous sommes un miracle permanent. À vue humaine, il est juste impossible d'imaginer une survie quelconque avec des conditions de départ aussi calamiteuses que celles-là. Imaginez comment un mouvement initié par quelqu'un qui a été mis à mort, qui est ressuscité puis qui finit quand même par s'en aller, comme ça, l'air de rien dans les cieux, imaginez 2 secondes comment est-ce qu'il a pu survivre et qu'il ait continué d'exister jusqu'à aujourd'hui, 28 mai 2017. Normalement, si tout s'était passé comme prévu, quelques semaines plus tard, voire quelques années plus tard, après ces événements, on n'aurait plus rien dû entendre parler de ce Jésus, et encore moins de ses disciples, un peu perdus. Un miracle permanent. Et pour répondre à cette question du comment, une seule réponse possible que nous indique le texte. Les disciples ont pris au sérieux la promesse de Jésus d'être ses témoins, de rester en communauté en étant assidus à la prière, dans l'attente de recevoir l'Esprit Saint. Ces deux éléments, la responsabilité de témoin et la présence du Saint-Esprit, expliquent encore et pourquoi nous sommes là ce matin. Ce sont les deux seuls éléments, fidélité à l'appel du Christ et à sa promesse, onction de l'Esprit Saint qui descend sur nous. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le verset 8 de ce premier chapitre des Actes. Sur cette promesse de recevoir l'Esprit Saint qui deviendra réalité quelques jours plus tard, on va le fêter dimanche prochain à la Pentecôte, les disciples ont pu entamer une nouvelle étape en lieu et place de rester coincés là où ils étaient. Et cette nouvelle étape, elle porte un nom, c'est celle du témoignage auprès comme au loin. Témoigner de qui est Jésus pour nous dans nos vies quotidiennes. Le christianisme est un miracle permanent, on l'a vu, qui est composé de la réponse à une promesse et de la mise en marche d'êtres humains comme vous et moi, et de l'envoi surnaturel là, de l'Esprit Saint sur ces mêmes disciples lors de la Pentecôte. C'est un miracle permanent car des millions d'autres chrétiens de par le monde célèbrent en ce jour même ce Jésus que l'on ne voit plus. Et ils ne le pleurent pas, soit dit en passant. Ils célèbrent ce Jésus que l'on ne voit plus. Et nous sommes aussi réunis ce matin, nous sommes ce miracle permanent de la foi chrétienne. Nous le sommes. Est-ce qu'on y croit? Qu'on ait des miracles sur pattes? Miracle permanent car c'est Jésus que l'on ne voit plus, nous a donné son esprit, que l'on ressent au plus profond de nous, dans notre intimité, dans notre être intérieur. Cet esprit qui habite au cœur de nos vies et qui fait tout simplement que la vie est différente avec cette présence unique. On ne regarde pas les choses de la même manière. Elle est différente car on peut se confier à quelqu'un qui va bien au-delà de nous. On est dans une relation vivante avec ce Jésus qui est monté aux cieux, rejoindre son Père. Nous avons une vie différente car nous recevons de cette présence une puissance de vie sans limite. Nous vivons une vie différente car nous pouvons dire merci de tout ce qui nous arrive au quotidien. Ce n'est pas un dieu ou quelque chose qui tomberait du ciel. Différente car lorsqu'un jour nouveau se lève, je peux le prendre comme une grâce qui est là, même si c'est un lundi matin. Une vie différente car je place ma foi dans quelqu'un qui vient me chercher au cœur de mes faiblesses, de mes limites, de mon péché, pour me relever comme lui il a été relevé. Et on pourrait bien sûr allonger la liste en fonction de nos expériences personnelles, de savoir en quoi Jésus fait la différence dans nos vies de femmes et d'hommes de foi, de ce miracle permanent de la présence de Jésus au cœur de nos vies. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que de l'intériorité dans cette manifestation de l'Esprit. Il se manifeste aussi de manière tout extérieure et en premier lieu à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Dans 1 Jean, verset 12 au chapitre 4, il nous a dit « Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu vit en nous et son amour en nous est parfait. » Les manifestations du Saint-Esprit peuvent évidemment prendre quantité de formes différentes et variées. Il y en a des tas d'exemples dans la Bible. Mais dans toutes ces formes différentes et variées, l'amour est toujours au centre, est appelé à rester au centre de tout, car c'est ainsi, à notre amour que nous avons les uns pour les autres, que Dieu se manifeste, se rend visible aux autres et à nous-mêmes. Cet Esprit Saint peut se manifester aussi sous la forme d'un poème. Et puis, je n'ai pas résisté à l'envie de vous lire ce poème écrit par un de mes collègues, ou en tout cas ancien collègue pasteur, qui s'appelle Martin Huguer, qui a beaucoup travaillé dans les relations écuméniques, là, qui travaille sur un projet un peu fou qui s'appelle Jesus Celebration pour fêter les 2000 ans de la résurrection en 2033. Il prend des contacts à travers le monde et voilà ce qu'il écrit sur ce Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs. Esprit Saint, joie de nos cœurs, tu habites l'hospitalité, tu crées la vraie liberté, tu creuses la source du respect, tu donnes courage et détermination, tu inspires les prophètes, tu suscites des gestes plus parlants que des paroles, tu défends devant l'accusation, tu guéris nos blessures, tu réconcilies les ennemis et tu nous unis à Dieu. Esprit Saint, âme de l'Église, viens animer nos vies, comme tu as rempli celle de Jésus et de tous ceux qui l'ont aimé et suivi. J'ai envie de dire amen, hein ? Il est beau ce poème, il est magnifique et il nous met en avant. Il exprime aussi avec ses propres mots cette différence que le Saint-Esprit produit au cœur de sa vie. Différence qui se traduit en paroles et en actes et qui pose des éléments concrets pour annoncer cet amour et vivre cet amour. On le voit à travers toutes ces marques, une petite sélection parmi des millions d'autres, cette séparation n'en est pas vraiment une. Grâce à l'envoi du Saint-Esprit et à la foi dont ont témoigné les premiers chrétiens. Et nul doute que Patricia Suhardi, qui va nous entraîner dans une prédication dimanche prochain, va nous faire découvrir encore d'autres facettes de cet Esprit Saint qui habite et qui vient dans nos cœurs et dans nos communautés. Et bien plus qu'une séparation, cette élévation de Jésus, c'est l'apparition d'un mouvement qui est toujours là. Un mouvement de témoins dont l'histoire a commencé avec l'effacement de leur maître, qui leur a envoyé son esprit. À l'instar de ce que nous avons médité la semaine passée, de ce mouvement de Jésus qui sort du Père et qui vient vers nous, et qui nous fait partie prenante de ce mouvement, nous sommes toujours dans ce mouvement qui s'est initié il y a plus de 2000 ans, lorsque Jésus est remonté auprès du Père. Et ce mouvement, missionnaire par essence, puisque nous sommes appelés à être témoins, c'est un mouvement qui ne peut être qu'en croissance. C'est un mouvement qui ne peut que se déployer et c'est un mouvement qui ne peut qu'être fécond. Vous allez me dire que je suis peut-être un peu ambitieux puis que je me prends un peu la tête en tant que pasteur d'une église. Tout simplement parce que ce mouvement, il n'est pas de notre origine, mais il fait que l'on est partie prenante d'un mouvement bien plus large et qui trouve son origine en Dieu et en Dieu seul. Si ce mouvement était notre propre origine et notre propre entreprise, sûrement qu'il se serait arrêté quelques mois, comme je l'ai dit, après l'ascension, pour se répandre dans peut-être quelques petits groupes encore, puis mourir petit à petit. Si nous sommes encore là, si nous sommes encore partie prenante de ce mouvement et partie dynamique de ce mouvement, c'est bien parce que ce Saint-Esprit continue de nous animer, nous pousse en avant et nous fait assumer notre responsabilité de témoin. Il n'y a pas besoin de se creuser de midi à 14h la tête de savoir ce qu'on est appelé à faire sur cette terre. C'est assumer notre responsabilité de témoin. Le reste nous est donné par le Père. Nous, ce qu'on est appelé à faire, c'est d'assumer notre responsabilité de témoin. Mais vous recevrez la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on traite de cette thématique ici à la Frate de la mission, auprès comme au loin. Et c'est précieux de se dire que dans ces moments clés de notre foi chrétienne, dans ces moments clés du christianisme, j'ai pas eu besoin de catapulter un texte pour soutenir un peu cette envie de nous donner l'envie d'aller en mission. Cette nature, cette essence missionnaire est au cœur des moments clés de la foi chrétienne. Lorsque ça aurait pu changer, lorsque ça aurait pu prendre des chemins de traverse, les paroles de Jésus sont claires et il nous envoie chaque fois en mission dire qui il est autour de nous, témoigner de ce qu'il fait au quotidien dans nos vies. Cet appel de Jésus pour notre communauté tombe donc à pic pour nous continuer à nous mettre en route, continuer à nous faire aller de l'avant pour porter trop loin cette bonne nouvelle. On va pouvoir bénéficier dans quelques mois de nouveaux locaux et une des caractéristiques de ces nouveaux locaux qu'on a voulu mettre en avant, c'est cette dimension de l'accueil et cette dimension d'ouvrir les portes sur la ville qui est autour de nous. Alors que nous puissions être animés de ce zèle missionnaire, en comptant sur Dieu et sa puissance, pas en comptant sur nos propres forces, nous on fait les murs, mais ensuite en comptant sur Dieu, en s'en rendant disponible à qui il veut que l'on soit ici au cœur de la ville. Et je vais le répéter encore à la rencontre d'église, mais j'en profite ce matin, je suis inspiré, me dire, mais est-ce que pendant cet été, ce temps de repos, ce temps d'exil où on sera aux horizons, on pourrait mettre ce temps à part en communauté, comme les disciples, pour être assidus à la prière. Assidus à la prière en communauté, pour se dire qu'est-ce que Dieu veut faire au sein de notre communauté, ici au cœur de la ville. Être assidus à la prière, parce que nous serons un peu en exil, et ces temps d'exil sont souvent propices pour se recentrer, fixer les yeux là où il faut, et se recentrer sur nous en communauté, et se dire, mais qu'est-ce que Dieu attend de nous ici, comme témoins. On sait qu'il nous attend comme témoins, ce qu'on ne sait peut-être pas encore, c'est comment on va le faire, comment on va être témoins au quotidien ici au cœur de notre ville. Alors, peut-être que l'été, c'est un temps propice pour pouvoir se poser ces questions-là, pouvoir être à l'écoute de Dieu et ensuite faire émerger différentes idées, différentes initiatives qui vont émaner, j'en suis sûr, du cœur de notre communauté pour assumer notre rôle de témoin. Amen.